Bonjour tout le monde, on est Capucine
et Camille
et on vous présente Purée,
l'émission de cuisine qui donne la patate.
Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode,
déjà ça passe vite,
on part de la mini-série culinaire Salt, Fat, Acid and Heat qui suit la chef états-unienne Samin Nosrat.
En français, le titre de cette série disponible sur Netflix donnerait Sel, Gras, Acide et Chaleur.
Autour de cette série, à la manière de Samin Nosrat, nous sommes à notre tour partis en vadrouille afin d'échanger des secrets de cuisine.
Aujourd'hui, au menu, on présente la série Salt, Fat, Acid and Heat.
Ensuite, on vous amène à Lille tester une recette issue de chaque épisode et on se parle de la cuisine de Samin Nosrat, des quatre piliers qu'elle lui donne, de la technicité et du partage.
Puis, on part à Chambéry, cuisiner et discuter des différents rapports à la cuisine et de l'intérêt d'apprendre en faisant les recettes.
Quelques mots pour commencer sur Samin Nosrat, qui est donc une chef états-unienne, désolée c'est la deuxième fois de suite, mais ensuite promis on revient en France, qui est née à San Diego de parents iraniens. Elle a appris à cuisiner au restaurant Chez Panisse, qui est à Berkeley en Californie. La légende raconte, ou en tout cas Wikipédia, qu'elle y a dîné une fois et qu'ensuite elle y a postulé pour être commis de salle. Et petit à petit, elle est montée un peu dans les échelons de Chez Panisse, du nom de la Panisse marseillaise, et qu'elle y a travaillé pour Alice Waters. Et dans ce restaurant, l'idée, c'est vraiment de faire attention aux ingrédients locaux, frais, de saison, etc., tout en reprenant des traditions de la cuisine française, mais sans importer les ingrédients comme ils seraient en France, mais plutôt de les appliquer à la Californie. Bon, voilà. C'est tout un truc sur une sorte d'art de vivre à la californienne, et c'est à ça qu'elle a été formée, Samin Nosrat. Et donc, elle a écrit ensuite, en 2017, un livre qui s'appelle « Salt, Fat, Acid and Heat », soit le sel, le gras, l'acidité et la chaleur dans le sens de la cuisson et non du piquant, qui est écrit un peu, pas vraiment comme un recueil de recettes, mais plutôt comme une sorte de livre d'école pour apprendre à utiliser bien chacun de ces quatre éléments auxquels un chapitre est dédié à chaque fois. Donc il y a un peu des méthodes, des explications scientifiques de qu'est-ce qui se passe quand on sale les ingrédients, qu'est-ce que ça leur fait, etc. Un peu comme dans le livre qu'on a présenté dans le premier épisode, Start Here de Sola El Waili. Je vous invite à écouter ou réécouter ce premier épisode pour vous remettre dans le bain. Et donc... voilà, donc l'idée c'est que elle crée son répertoire culinaire autour de ces piliers-là en disant que si on maîtrise vraiment bien chacune de ces techniques, de ces réflexions, de ces concepts, de ces méthodes autour de la cuisine, et ben c'est ça qui peut nous permettre de parfaire un plat, une cuisine, etc., et de l'appliquer à notre propre répertoire. Voilà.
Puis en 2018, donc, sort une mini-série Netflix du même nom, Salt, Fat, Acid and Heat. Et dans chaque épisode, l'un des quatre piliers qu'elle donne à la cuisine est évoqué. Et donc elle va voyager en Italie d'abord pour discuter de l'utilisation du gras dans les aliments, donc de l'huile d'olive, du gras de porc, du parmesan. Puis elle va au Japon pour étudier la salaison entre différentes tailles de cristaux de sel, poisson, miso et sauce soja. Ensuite, elle va au Mexique, dans la région du Yucatan, pour parler d'acidité avec les naranjas agrias, c'est-à-dire les oranges amères qui sont à la base de cette cuisine. Et c'est aussi l'occasion d'évoquer la place du yaourt pour elle, c'est-à-dire acide dans la cuisine iranienne de son enfance. Et pour le dernier épisode, sur la chaleur, dans le sens de cuisson et non pas de piquant, ce que je pensais en lisant simplement le titre, elle revient en Californie et notamment dans ce restaurant dont Capucine vient de vous parler, chez Panisse, et s'entretient avec la dessinatrice de son livre et avec sa maman.
Après cette série, Samin Nosrat gagne vraiment en notoriété. Elle a même été élue, je ne sais plus en quelle année, par le journal états-unien Le Times comme une des 100 personnes les plus influentes du monde, ce qui est quand même, voilà, grâce à Netflix, les miracles que peut faire Netflix. Et elle a aujourd'hui elle aussi un podcast, sans doute pas aussi bien que le nôtre, mais à vrai dire on sait pas parce qu'on l'a pas écouté, et qui s'appelle Home Cooking, et elle écrit parfois pour le journal New York Times.
Par cette série, c'était l'idée que la cuisine ne s'apprend pas que dans les livres. Et donc nous, après avoir appris la cuisine dans les livres, enfin dans un livre, dans le premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de personnes différentes, dans des lieux différents. Et en fait, le format de série, comme c'était bien plus facile à partager qu'un gros livre lourd, cher, c'était l'occasion de partir à l'aventure et d'éprouver ces sujets avec les gens. Et donc, on a fait un épisode spécial Belle Famille.
Et du coup, pour commencer, moi, je suis allée à Lille chez les parents de ma copine. Et notamment parce que son beau-père cuisine beaucoup. Il a une petite passion depuis quelques années pour le chef israélien Yotam Ottolenghi, dont vous avez sans doute vu les livres dans vos librairies de cuisine préférées. C'est les livres tout blancs avec au-dessus un gros citron ou bien un oignon, ou voilà, dessiné. Et donc, lui, il passe beaucoup de temps à cuisiner. C'est pas son métier, mais il y passe parfois vraiment plusieurs heures en cuisine, en travaillant chaque produit dans le détail et la technicité, alors pourtant que c'est pas du tout sa formation première. Et donc ça m'intéressait un peu d'aller voir avec lui qui a en fait commencé à cuisiner un peu sur le tard et d'aller prouver avec lui cet endroit de d'aller chercher des nouvelles techniques dans la cuisine et surtout d'avoir vraiment envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous propose de faire la cuisine de cette manière-là. Et on a beaucoup parlé ensemble pendant qu'on cuisinait tous les deux de certaines choses qu'il avait lues par exemple qu'il fallait faire en cuisine et il comprenait pas tout à fait pourquoi. Par exemple, faire chauffer la poêle avant de mettre de l'huile, il m'a dit bon j'y crois toujours pas, j'ai pas trouvé une seule info qui me convainc, etc. Je le fais quand même mais je comprends pas pourquoi. Ou bien saler l'eau seulement une fois qu'elle a bouilli et pas avant qu'elle bouille, enfin bon bref, voilà.
Ça on sait pourquoi, hein, entre parenthèses. Oui, parce que dans les... Ça, on le sait avec Carla, parce qu'on est allé à Marseille, dans un magasin où le vendeur nous a expliqué que dans les casseroles en inox, le sel est abrasif et du coup peut faire des taches sur le fond de la casserole en inox. Et que si tu sales ton eau avant de la faire bouillir, en fait, le sel est en contact avec le fond de ta casserole et du coup, ça peut l'abîmer, ça peut faire des taches, éventuellement corroder, je sais pas si c'est un verbe... au bout de longtemps la casserole et que donc il vaut mieux saler une fois que l'eau bout quoi.
Ah bah écoutez, j'espère qu'il va être content d'écouter ce podcast et on verra est-ce qu'il l'a vraiment écouté ou pas, est-ce qu'il me dit qu'il a compris pourquoi il fallait saler l'eau plus tard. Voilà, mais donc bah du coup je suis allée à Lille et parce que c'est là qu'il habite, ça n'a aucun rapport avec la région. Et on a testé une recette de chaque épisode. La chose qu'on a vraiment essayé de faire tous les deux, c'est le tadig, donc le plat de riz iranien que Samin Nosrat fait dans le dernier épisode sur la chaleur avec sa mère. Et par ailleurs, j'ai aussi fait des œufs dans le miso, qui ça est dans l'épisode sur le sel au Japon. J'ai aussi fait le pesto, enfin une sorte de variante, parce que j'avais pas assez de basilic, mais sinon j'ai repris les bons ingrédients du pesto de l'épisode en Italie, donc sur le gras et... Enfin, j'ai fait la pavlova aux agrumes de l'épisode sur l'acidité. Voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, les ingrédients que j'ai trouvés. J'ai pas tout à fait les mêmes oranges qu'au Mexique, comme vous pouvez vous en douter. Mais j'ai fait avec ce que j'ai pu trouver. Et ensuite, on en a fait un dîner avec la mère de ma copine, ainsi que ma copine et sa petite sœur. Il y a des extraits de tout ça qui sont enregistrés et qu'on va pouvoir vous faire écouter. Ce que je peux dire déjà comme ça rapidement, c'est que ça a fait un mariage heureux. Ses œufs au miso, ses haricots verts au pesto et le tadig qui a ravi tout le monde autour de la table. Et ce qui était intéressant, du coup, c'est que chacune de ces recettes avait été... préparé avec un des, du coup, trois piliers, parce que la pavlova aux agrumes, donc l'acidité était vraiment réservée pour le dessert, mais que les trois autres avaient l'air de bien se marier, alors pourtant que spontanément, bon, enfin c'est des œufs, des haricots verts et du riz, mais je trouve pas que ça ait l'air particulièrement délicieux, mais il s'est trouvé que c'était vraiment bon, et j'ai l'impression que ça tenait notamment au mariage de ces différentes techniques.
D'après ?
Oui ?
Moi je pense que ça c'est bien.
Oui, c'est très bien. Mais ça, en plus, c'est le faux tadig. En fait, c'est chiant de faire un mix d'une vraie recette et d'une fausse recette. Alors,
Enfin. On essaye de compléter la vraie recette avec les informations de l'autre. Ouais. Donc, on en met juste une fine couche.
Ouais, d'abord.
On est prêt avec le safran ?
Ouais. Ah, et est-ce qu'on sort maintenant un petit bout du riz ? Pour mélanger avec le reste du safran.
Bonne idée, tiens, là.
Donc là, on va mélanger le riz safrané avec le reste du riz. C'est très chaud. On mélange les deux en haut. Voilà. Hein. C'est parti, Nico. Ok, bon, bah, il n'y a plus qu'à retourner le truc. Donc là, je retourne, Nico. Hein.
Waouh, il arrive tellement vite.
Tu veux pas le faire ?
Donc, je veux bien le faire. Hein.
Tiens, je vais paniquer. Il faut quelqu'un qui peut faire 8 minutes en appel.
Prêt ?
Ouais,
feu. Faut aller vite. Ouh, il est tombé. Est tombé.
Est-ce que c'est tombé jusqu'en haut ? Je peux soulever ?
Ouais.
Ouh. Oh !
C'est ça dans les photos !
En tout cas.
Ceux qui l'ont goûté disent que c'est le meilleur.
Voilà.
C'est là le truc que Margot a haché, écrasé.
Oui.
C'est le.
Oh, c'est du pesto, mais c'est un pesto un peu raté parce qu'il n'y a pas assez de basilic.
Il n'y avait pas 40 grammes de.
Et vous avez mis tout le pesto là ?
Ouais.
Et ça se mange avec les œufs.
Bah, c'est l'idée.
Donc ça, ça a trempé dans le miso, c'est ça ?
Bah, là, tu vois.
Ça donne du goût.
Ils sont bruns sur le côté et normalement, c'est censé leur donner du goût.
T'as vu, on dirait la coquille.
On dirait si ça marche ou pas. Oui, oui, c'est vrai. On dirait qu'ils sont pas cassés.
C'est ça là.
Ah oui, c'est vrai que le riz est.
Il est bon ?
Très très bon.
Incroyable.
C'est vrai que le riz est très 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 bon. Oui, je comprends si, comment le.
Le truc acide, c'est le zeste de mandarine qu'il y a sur le dessus de l'œuf.
Ah ouais. C'est trop bon. Il est hyper léger ce riz.
Oui, il est.
Tu trouves pas ? C'est aérien.
Ah oui, et c'est pas frit la croûte. C'est pas ça.
Avec.
C'est pas frit.
La mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes. Pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord. Écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate, sur Radio Campus Paris 93.9. Retrouvez-nous un dimanche par mois à 20h et en rediffusion sur le site de Radio Campus Paris.
Vous venez d'écouter Le Plat Pays de Jacques Brel. Alors la plus simple des 4 recettes que j'ai testées, c'est celle des miso cured eggs, je ne sais pas comment traduire ça, des œufs. Entre marinés et confits dans du miso, enfin je ne saurais pas dire exactement, mais... C'est assez simple à faire, donc je donne la recette rapidement. Il faut faire bouillir des œufs en les mettant dans l'eau qui est déjà en train de bouillir et en les y laissant pendant 8 minutes. Ensuite, vous mettez les œufs dans l'eau froide. Vous pouvez mettre soit dans un bol d'eau avec des glaçons pour les gens qui sont riches et qui ont des congélateurs, soit sinon, vous mettez dans un bol d'eau et vous mettez un filet d'eau froide un peu en continu. Ça gâche beaucoup d'eau, mais ça refroidit les œufs. Ensuite, il faut écailler vos œufs et vous prenez du miso. Il faut acheter une... Je sais pas dire les grammes, mais je pense au moins 500 grammes, une grosse quantité. Et vous en prenez, vous humidifiez rapidement vos mains. Donc là, les œufs, ils sont écaillés, je sais plus si j'ai dit. Vous humidifiez... Écalés, pardon, Camille. Donc vos œufs sont écalés et vous humidifiez un peu vos mains, vous mettez du miso dedans, vous faites... Ah ouais, c'est en fait hyper galère à expliquer. Vous étalez un peu sur votre main et ensuite vous mettez l'œuf au milieu de la pâte. En fait, il faut lui faire comme une sorte de nouvelle coquille, mais avec du miso et assez épaisse, quoi. De toute façon, vous allez remarquer en le maniant que c'est pas super facile à manier si vous vouliez en faire une couche fine. Mais l'idée, c'est que du coup, l'œuf soit intégralement recouvert de miso. Et ensuite, vous mettez ça dans un bol ou dans un... Bon, comme c'est une recette écrite par une états-unienne, il faut mettre dans un sachet en plastique, mais sinon, mettez dans un bol, quoi. Et vous mettez les œufs les uns sur les autres, quoi, pour que, en gros, ils se pressent les uns dans les autres et que le miso attache vraiment. Et ensuite, vous les laissez 4 heures, pas plus longtemps, même si vous voulez les manger dans plus longtemps, vous les laissez 4 heures au frigo. Et au bout de 4 heures, vous retirez bien le miso, vous prenez votre doigt et pareil, un peu humidifié pour bien enlever le miso sur tous les côtés. Et ensuite, vous pouvez les remettre au frigo et les manger quand vous voulez. Et ensuite, elle les sert avec un mélange de 7 épices japonaises. J'ai oublié le nom du mélange, mais vous pouvez le retrouver facilement. De toute façon, on va mettre le lien du site sur lequel il y a la recette dans la description de l'épisode. Et moi, j'ai regardé au dernier moment hier, parce que j'avais évidemment pas ce mélange d'épices-là, et je sais que ce que j'avais, c'était du zeste de mandarine, parce qu'il se trouvait que j'avais des mandarines, du poivre de Sichuan, du piment rouge et des graines de sésame. Mais il y a aussi d'autres choses normalement. Et du coup, moi, j'ai juste mis ça sur les œufs une fois dur, juste coupé en deux. Et voilà, c'était très bon. Ensuite, sur le pesto, je dis juste qu'il y a un peu particulier, c'est que d'abord, tu fais une pâte avec les pignons de pain et ensuite, tu rajoutes de l'ail dedans quand c'est vraiment sous forme de pâte. Et ensuite, donc tout ça, c'est dans un mortier, c'est pas dans un mixeur, pour que ce soit, je sais pas pourquoi, pour que ce soit le savoir-faire ancestral. Après, qu'est-ce que ça apporte exactement, je sais pas, mais c'était très bon. Et ensuite, tu mets les feuilles de basilic avec un peu de sel pour que le sel aide à casser les feuilles de basilic et que ça fasse vraiment une pâte. Et ensuite, seulement, tu rajoutes du pecorino, du parmesan et de l'huile d'olive. Voilà, après pour les doses et tout, vous pouvez aller voir sur le site. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bon, non, bah voilà, après, enfin vraiment les autres recettes que j'ai faites. Non, si, ce qui est intéressant sur le tadig, mais ça on l'entend un peu dans le reportage, vous allez voir, ou alors vous avez vu. Et c'est que, en fait, dans la série sur Netflix, elle nous explique en gros, elle fait la recette avec sa mère, Samine Nosrat, et... Elle nous explique en gros comment elle fait le tadig, chaque étape et tout, mais elle nous donne aucun timing, aucun dosage de rien. Et par ailleurs, il y a une recette sur son site, mais qui est une recette d'un riz. Il y a écrit Persian-ish, donc iranien-ish, approximatif, quoi. Riz avec du tadig. Donc c'est pas exactement le tadig qu'elle fait avec sa mère. Et or, nous, c'est ça qu'on avait envie d'essayer de faire avec Nico, chez qui je suis allée. Donc on a essayé de retrouver la recette avec ce qu'on a trouvé. Et du coup, ce qu'on a trouvé comme arrangement, c'est qu'on a mis de l'huile et du beurre dès le début dans notre casserole. Ensuite, le riz qu'on avait fait bouillir préalablement et qui donc était al dente, presque cuit, quoi. On l'a mis au fond de la casserole, ensuite on l'a un peu tassé, on a mis une petite couche au fond de la casserole, puis un peu de safran dessus, puis on a fini de mettre le riz, on l'a bien tassé, et là on a fait 6 trous dans le riz. Ça vous pouvez le voir, c'est assez précisément montré dans la série, donc on a vraiment suivi. Des trous avec le dos d'une cuillère, enfin pas le dos, le manche d'une cuillère en bois qui vont jusqu'en bas de la casserole et ça permet à la vapeur de remonter jusqu'en haut pour que le riz cuise uniformément. Et ensuite on a couvert, on a fait cuire je dirais une dizaine de minutes pendant lesquelles on a fait fondre du beurre. Ensuite on a rajouté du beurre dans le riz, on a attaché un torchon sur le couvercle de la casserole pour que ça augmente la vapeur, quoi, oui c'est ça, pour que ça augmente la vapeur à l'intérieur de la casserole. Et on a pris un petit peu du riz qu'on a mélanger dans un bol avec du safran réduit en poudre et de l'eau. Donc ça faisait une partie du riz qui était du coup très safrané et puis jaune, quoi, orange. Et on a remis le bol dans la casserole sur le riz et on a remis le couvercle. Et là, on a fait cuire encore pendant à peu près 35 minutes. Ça a cuit en tout 45 minutes. Au bout de ces 45 minutes, on a enlevé le couvercle, on a mélangé le riz safrané avec le haut du riz blanc. Et ensuite, on a fait le geste fort du tadig, c'est-à-dire qu'on a mis une assiette en haut de la casserole et on l'a retournée. Et il faut vous dire que notre croûte du dessus du tadig était parfaite. Voilà.
Thank you.
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate, sur Radio Campus Paris 93.9.
Vous venez d'écouter le groupe anglais Eurythmics avec There Must Be an Angel.
Moi, ce que j'ai trouvé cool dans la série, notamment, c'est que à la fin de chaque épisode, elle faisait un dîner à partir de des trucs qu'elle avait cuisinés,
ouais.
Dans lequel elle invitait genre toutes les personnes avec lesquelles elle avait parlé, parce que bah peut-être c'est bien juste de redire ça, mais dans chacun des épisodes, elle va donc dans un pays pour tester une technique ou bien chez elle. Enfin, c'est aussi dans un pays, ceci dit. et dans chaque épisode, elle parle avec plusieurs personnes qui ont chacune un peu son savoir-faire. Donc, il y a une sorte de boss du pesto, de boss de l'huile d'olive, de boss du parmesan, etc. Dans l'épisode sur l'Italie. Enfin, voilà, c'est pareil dans chaque. Et à la fin, à chaque fois, elle fait un dîner où elle invite tous ces gens-là avec lesquels elle a discuté et parfois aussi d'autres gens. Et je trouve ça hyper agréable de voir... Bah, je sais pas, enfin, c'est vraiment l'intérêt de la cuisine, quoi. Bon, c'est super bateau ce que je dis, mais...
le fait de partager ce que t'as cuisiné avec les...
Ouais, c'est ça, et puis...
C'est une manière de rendre les conseils que les gens t'ont donnés.
Ouais, exactement, ouais. Et de partager le reste des recettes aussi avec eux et tout, et puis ça... Enfin, c'est marrant aussi, parce que du coup, elle apprend des techniques de quelqu'un, et ensuite, elle recuisine elle-même pour la personne avec la technique qu'elle a appris. Il y a une sorte de boucle qui est bouclée, bon, voilà.
Ouais.
Et du coup, c'est pour ça aussi que bah, moi, j'ai trouvé ça sympa de tester ces recettes-là en faisant un dîner avec des gens, enfin voilà, en n'étant pas juste chez moi ou toute seule pour tester les recettes. C'est toujours un peu plus chiant de cuisiner pour soi-même, quoi.
Oui, mais c'est clair. Et aussi, je pense par exemple au tadig, où tu peux pas vraiment faire une version une personne du tadig.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, ça te force. Enfin, il y a des recettes, je trouve, comme ça, où même par exemple... on a fait une mayonnaise, vous verrez un peu plus tard à Chambéry. Et en fait, dans une mayonnaise, bah, t'as forcément un jaune d'œuf, tu vas pas couper ton jaune d'œuf.
Bah ouais.
Donc tu fais forcément un bol de mayonnaise et c'est des choses qui te forcent soit à manger beaucoup de mayonnaise ou beaucoup de tadig, soit à partager ce que t'as fait justement dans la cuisine.
Ouais. Et bon, voilà. Et puis du coup, bah, enfin, y a vraiment cet aspect... Bah, ce qui est c'est intéressant en fait parce que on se dit, elle a écrit un livre pour elle apprendre aux gens en quelque sorte à maîtriser chacun des éléments de base de la cuisine, là, le sel, le gras, l'acidité et la chaleur. Et ensuite, en fait, dans la série, on la voit, elle, apprendre des choses, des gens qu'elle va voir. Enfin, il y a ce côté un peu... Moi, je sais pas, elle est chef, elle donne des cours de cuisine, elle nous écrit un bouquin, et ensuite, elle-même, elle va encore se former, notamment sur ces techniques qu'elle pense être les plus importantes, quoi. Et bon, moi, je me demandais, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette répartition-là de ces quatre éléments?
Ouais.
Est-ce que ça marche selon toi? Est-ce que en gros on a les bases de toute bonne cuisine si on maîtrise chacun de ces éléments? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça t'évoque?
Bah déjà, je pensais que c'était en fait quatre éléments que tu devais considérer quand tu faisais une recette de cuisine. Je me suis dit, en fait, quand tu fais, mettons, ton plat de riz le soir avec tes légumes, et bah ça va te servir quelque chose de penser, ok, où est-ce qu'on est au sel? Quel sel je mets, quel niveau de salinité, etc. Où est-ce qu'on est en gras, hein, en acide et en heat. Et en fait, j'ai l'impression que
c'est
pas...
En chaleur.
En chaleur. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément exactement ce qu'elle fait dans le... Mais c'est plus une espèce de manière de dire, ok, il y a certaines recettes qui marchent comme ça, qui marchent par l'acide, certaines recettes qui marchent par... la chaleur, certaines recettes qui marchent par ta ta ta. Ça n'empêche pas que ça puisse être des composants de plusieurs recettes. Enfin, quand tu fais un cake au citron, bah, ton cake il cuit. Et de fait, ça se ressent dans la série aussi, je trouve. Ouais, c'est très artificiel cette décomposition des en quatre éléments. En fait, elle est toujours en train de dire, bah, dans l'épisode sur l'acide, elle est là, ah, là c'est super gras ou machin. Donc.
Oui, bah c'est vrai, mais par exemple, dans le pesto que moi j'ai testé, j'ai trouvé ça marrant parce que du coup, on a fait torréfier les pignons de pain dans un premier temps, donc il y avait de la chaleur. Et ensuite, ben, c'est une recette qui était dans le gras parce qu'il y a les pignons de pain, le fromage, l'huile d'olive, etc. Ensuite, ben, en fait, le fromage, il est à la fois acide et salé, donc ça rentre. Ouais. Enfin, voilà, c'est juste. Moi, je trouve que quand tu commences à y réfléchir, c'est vrai que dans à peu près toutes les recettes, en tout cas salées, on arrive à retrouver tous ces éléments-là, quoi. Et
carrément.
En fait, dans les sucrés, c'est un peu pareil, mais sauf qu'on remplacerait le sel par le sucre.
Ouais, ouais,
d'une certaine manière. Sinon, ça se retrouve quand même, quoi.
Moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect... en tout cas, sur plusieurs... Par exemple, le sel, l'acide et la chaleur, je trouve que c'est trois éléments qui transforment... Enfin, qui ont vraiment une action transformatrice sur les aliments.
Mm.
Par exemple, je sais... En fait, j'ai pas une super mémoire, mais... l'acide, par exemple, ça cuit. où je trouve que c'est intéressant à considérer comme justement vecteur de transformation des aliments que tu proposes, quoi. Et je ne sais pas si le gras, c'est autant le cas, ou si c'est vraiment un élément qui...
Que tu rajoutes, quoi.
Voilà. Ouais. Qui aide au goût. Mm. Mais je ne sais pas si ça transforme franchement ton...
Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé, mais c'est vrai.
C'est une remarque qui ne mène à rien.
Non, non. c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est intéressant. Bon, bah...
Puis, je suis allée à Chambéry, chez la mère de mon compagnon, qui est originaire de Transylvanie. Sa maman est originaire de Hongrie et son père de Roumanie. Et elle a très gentiment regardé la série de son côté et puis elle m'a préparé une journée de cuisine, enfin une après-midi de cuisine, avec différentes recettes de Roumanie surtout, mais pas que. Et ça a été l'occasion de parler de la série et des quatre éléments du sel, du gras, de l'acide et de la chaleur.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV Douille desservira la gare de Chambéry-Chalaiseau. Prochaine gare d'arrêt, Chambéry-Chalaiseau. Correspondance pour la direction de Montbéliard, Saint-Pierre-d'Alpiti, Chamousset, Aigbel et Pierre-Saint-Léger, Saint-Avre-la-Chambre, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel-de-Valoire à la Boissée à 12h48. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier votre place. Prochaine gare d'arrêt, Chambéry-Chalaiseau.
Donc t'as un petit feu, je réchauffe la pizza végétarienne que j'ai faite hier. En fait, pizza c'est un nom un peu bizarre pour ce que j'ai fait, ouais. Parce que c'est ce que ma maman faisait ça.
Ouais.
Et finalement, c'est une pâte de pizza, bien épaisse, pas
c'est
les pizzas.
Pâte à pain.
C'est une pâte à pain, mais avec de l'huile, tu vois, c'est, ouais. C'est une pâte à pizza. Et ma maman, elle me mettait de la viande, mais ça, celle-là, elle est végétarienne. Et en gros, j'ai fait une bonne ratatouille avec des trucs de soja. Comment
Des protéines de soja.
Oui, voilà. Donc, ratatouille avec des protéines de soja. Et j'ai mis des champignons et du fromage. Et voilà.
Merci, Mamie.
Avec plaisir.
J'adore les aubergines.
Trop bon.
Dans la partie nord-ouest de la Roumanie, dans une région qui s'appelle la Transylvanie. Mm-hmm. T'as déjà entendu parler de la Transylvanie. Oui. Donc là, il y a un sorte de mélange de cultures, un mélange d'ethnies. Et c'est la Roumanie, donc la population majoritaire, ce sont les Roumains, mais on a aussi des minorités hongroises, une importante minorité hongroise, mais aussi il y a des Allemands, des Serbes, même des Croates. Ma meilleure copine au lycée, c'était une fille d'origine croate, enfin d'ethnie croate. Tu sais que mes parents, ma maman est d'origine roumaine et mon père d'origine hongroise. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, mixtes dans cette région. Et du coup, la cuisine, elle est un peu pareille aussi.
Mais vous mangez beaucoup de pickles, non ?
Oui.
Moi, c'est un truc qui m'avait marqué les premières fois où j'étais venue chez toi, qu'il y avait toujours un bocal de légumes. Pickles.
C'est vrai ?
Ouais, dans le frigo. Enfin, la première fois que je suis venue. Et on mange ça, en fait, avec de la viande, avec le plat, quoi.
Ouais. Moi, ce qui m'a... j'étais interpellée, on va dire, quand je suis arrivée en France, c'est que, avec votre plat, vous ne mangez pas quelque chose d'acide.
Ouais.
Parce que nous, on a nos plats,
par exemple un bout de viande avec des pommes de terre. Et à côté de ça, t'as une salade. T'as des légumes ou bien lacto-fermentés, ou bien allègre doux, ou bien une petite salade de choux. Et tu manges ça ensemble.
Oui.
Est-ce que tu pourrais me préparer les autres carottes, s'il te plaît?
Yes.
C'est mon carnet de recettes à moi. Regarde. En fait, je note les recettes que j'aime bien. Avec les balades que j'aime bien. Le descriptif de balade où j'étais, que j'ai bien aimé. Et les rêves qui m'ont un peu choquée, qui m'ont interpellée.
Donc c'est un carnet de recettes, de balades et de rêves.
Oui. Et il est un peu dans toutes les langues, si tu regardes. Mais voilà. Donc pour 1,5 litre de l'eau, on va mettre moitié de litre de vinaigre avec 3 cuillères de sel et 9 cuillères de sucre. Alors, on va commencer par trouver un couteau qui coupe bien. Donc c'est un bel Opinel.
Ouais.
Et tu vas commencer par enlever les ailes. Tu vas trouver le joint. Et là, tu vois où ça s'emboîte.
Ouais.
Tu vas le couper là.
Et ça, c'est le petit morceau qui est comme au coude de l'aile. Il y a un petit bidule qui sort et bah on enlève ce petit bidule. Mais c'est minuscule, ça fait la taille d'un ongle, même pas.
Et après, ce qu'elle faisait, elle emboîtait comme ça l'aile.
Donc là, on coupe sous la cuisse. On détache la cuisse de l'abdomen.
Pareil, tu peux le sortir comme ça un peu et là, tu vois où tu dois couper.
Et là, on coupe juste en dessous du petit morceau d'os, je sais pas comment ça s'appelle, ça, le petit bourron là.
Blanc, c'est le cartilage.
Qui apparaît du coup.
Là, si tu veux le couper en deux, pareil, ouais. tu le plies comme ça et tu regardes où c'est. Et c'est genre voilà, tu le délimites et après tu coupes comme ça. On va commencer à cuire le poulet. Je vais chauffer bien la casserole. Après, je vais mettre un peu d'huile. Cette fois, on peut mettre de l'huile d'olive.
Ouais.
Et on va cuire les oignons et le poulet. On va dorer le poulet un tout petit peu avant de mettre les épices. Entre-temps, on regarde comment elles cuisent les pommes de terre pour le dessert. Parce qu'il faut qu'elles soient bien cuites quand même. Ah, c'est lourd. On a encore du temps. Donc on va cuire, on va laisser bien chauffer la casserole,
ouais.
C'est important.
Mais ça c'est une cocotte en fonte, c'est ça?
Oui, ouais. J'aime bien parce que ça garde bien la chaleur et tout cuit de manière uniforme dedans.
Ouais.
Donc là ça a suffisamment doré, et je vais rajouter l'épice qui donne le nom à ce plat, c'est le paprika.
C'est quoi le nom du plat, rappelle-nous?
C'est... Tu le veux en quelle langue?
En roumain, déjà.
En roumain. Paprikaș de pui cu cartofi.
Poulet,
ouais.
Pui, c'est poulet?
Oui, pui,
c'est paprikaș, poulet.
Paprikaș?
Ouais. C'est le C avec la C divine.
Oui.
Vous avez vu ça?
Paprikaș de...
Pui, de pui cu cartofi și găluște.
Wow, ça devient
fou, hein. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai dit tous les ingrédients. Donc là, j'ai mis le paprika.
Il y a beaucoup de paprika. Hein,
ouais.
C'est-à-dire là, il y a peut-être 2 cuillères à soupe quand même de paprika.
Non.
Si.
Une peut-être.
Une cuillère à soupe, une
ouais.
Grosse cuillère à soupe.
Ouais, mais ça, on l'a fait dorer rapidement parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Et après, je vais rajouter de l'eau. Après, je vais rajouter du sel parce que c'est important.
N'est-ce pas?
Et je vais mettre des feuilles de laurier. Je vais le laisser cuire. Là, tu vas écraser les pommes de terre qui sont bien cuites dans l'eau et du sel. Je vais rajouter un jaune d'œuf.
rajouter 150 g de farine. Donc on va faire une pâte avec ça. Et comme les pommes de terre sont déjà bien salées, on ne va pas rajouter du sel. On va dire que c'est suffisant comme ça. Et en même temps, on va commencer à préparer la troisième partie de ce dessert. On a la chapelure du pain qu'on va faire dorer dans de l'huile.
Dans du gras.
Dans du gras.
Waouh!
Et quand ça sera bien, bien doré, ouais, on va arrêter le feu, on va laisser se refroidir. Et là, on va rajouter du sucre parce qu'on ne veut pas que le sucre fonde. On a fini les boulettes. Les boulettes...
Redis-nous le nom en roumain.
Gombot cuprune.
Gombot cuprune.
Oui.
Et ça, ça veut dire boulette aux prunes.
Oui. Et en hongrois, c'est sylvage gombot.
Sylvage gombot.
Gombots. Oui.
Mais alors, ce qui est dingue, c'est que donc les petites boulettes qu'on a faites avec la prune à l'intérieur, après on les a passées dans de la chapelure cuite à l'huile.
Oui, la chapelure dorée à l'huile.
Dorée à l'huile.
Oui. Et quand ça commence à sentir super bon, là tu dois l'arrêter. Tu dois faire attention à ne pas le brûler. Après, tu le refroidis, comme on a déjà dit. Et tu rajoutes autant de sucre. Pour que tu aies envie de la manger toute seule. Et quand tu as envie de la grignoter comme ça, la chapelure avec du sucre et de l'huile toute seule, là, tu t'arrêtes. Et dès que tu sors les petites boulettes qui ont été cuites à l'eau, tu les mets et tu les passes dans cette chapelure. Et ça s'accroche parce que c'est encore humide. Faut pas les laisser sécher, hein, parce que après ça sèche et jamais ça va s'accrocher. Et après tu as la texture,
ouais,
parce que la prune elle est un peu fondante, la pâte à la pomme de terre elle est un peu, comment tu l'appelles ça?
Elle est très moelleuse, je trouve, très un peu aérienne, très pillowy.
Comme on dit, mais je sais pas comment on dirait, enfin un peu comme un oreiller quoi.
Et après, t'as le croustillant du sucre,
ouais,
et avec la chapelure.
Donc toi, tu rajouterais le côté texture,
ouais,
qui a été pas à ce que Samine donne dans son documentaire. Toi, tu rajouterais le...
Bah, mais pour moi, la texture, ça compte vraiment beaucoup. Hein.
Ouais. On goûte. Bah, bon appétit.
Est-ce que tu as pris une photo avec...
J'ai pris une photo, mais sans la crème.
Sans la crème, mais avec la crème, il faut
prendre... Je vais prendre une photo avec la crème.
Moi aussi, je veux une photo avec la crème. Alors ?
C'est trop bon.
Tu peux ? Ce que je faisais quand j'étais petite, j'écrasais les pommes de terre.
Dans le jus ?
Dans le jus. Ouais.
C'est délicieux, ça a vraiment le goût de poulet, quoi. Et le persil est pas de trop, enfin, c'est très bon, quoi.
Mais ce plat-là, vraiment, tu n'utilises pas d'autres épices. J'aime bien qu'il n'y a que le persil et
le
paprika et les feuilles de laurier quand ça cuit. Des fois, j'ai la tendance de mettre un peu d'herbe de Provence dans tout.
Ouais.
Mais,
ouais, moi aussi. Ouais, délicieux.
Et je sens, on sent bien le goût du sel aussi.
Le goût du sel?
Ouais.
Ouais, grave.
Donc là, on a combien de types de gras là?
L'huile?
Ouais.
Gras de poulet,
ouais.
Crème,
ouais.
Et d'acidité, on a de l'acide là-dedans.
C'est quoi qui pourrait être acide? Si, non, je sens un petit truc acide.
Ouais,
bah, il y a la crème.
C'est vrai qu'il y a la crème.
Mais ça, chez nous, ça peut être aussi servi avec un peu de légumes.
Genre.
Un peu de légumes allègre doux. Comme ce qu'on vient de faire.
Et ouais. Délicieux.
Donc fin du repas avec le dessert.
Oui.
En fait, c'est fondant.
Est-ce que tu as déjà pensé que tu allais manger des pommes de terre au dessert ?
Non. Je regrette pas. Et là, c'est vraiment le sel dans le dessert aussi.
Oui.
Parce que tu les as refaites, tu les as faites plutôt hier.
Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait ce dessert, du coup je voulais m'en rappeler. Et j'ai pas mis assez de sel hier, donc c'était pas bon.
Mmh.
Vraiment, ça manquait. Et c'est un dessert dans lequel il faut vraiment mettre du sel.
Mais c'est pas sucré salé, ça a pas un goût sucré salé, c'est vraiment un dessert. Mais c'est bon quoi. C'est vraiment très bon.
C'est un dessert. Il y a du sel, c'est sucré et c'est un peu acide aussi.
Tu mets du sel dans tes desserts, les autres ?
Un tout petit peu, mais juste une pincée, un soupçon, si tu veux.
Bah merci Monica.
Avec grand plaisir.
Cette journée de cuisine.
Tu reviens quand tu veux.
Et c'était vraiment super.
Tu veux qu'on fasse quoi la prochaine fois?
On va faire un autre truc, non?
Vous écoutez Purée, l'émission de cuisine qui donne la patate, sur Radio Campus Paris 93.9.
Vous venez d'écouter Hey, Who Really Cares de Linda Perrax.
Dans la série, elle va voir donc, tout un tas de personnes et c'est vrai que sont mis en valeur beaucoup les savoir-faire ancestraux, l'idée de la transmission, de la fusion des différentes cultures et des différentes techniques aussi. Et avec Monica, c'était l'occasion aussi de parler de comment elle a appris à cuisiner. Et en fait, c'est rarement dans les livres, enfin je trouve, il y a des gens qui sont peut-être autodidactes, qui ont appris directement dans les livres, mais c'est souvent un support pour apprendre des choses en live, quoi. Je sais pas si toi, personnellement, t'as appris...
Ouais, non, bah, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les livres de cuisine, ça sert à... Enfin, c'est intéressant parce que là, du coup, le premier livre sur lequel on a fait un épisode... C'est un livre dont l'idée est d'apprendre à cuisiner, exact. Mais d'un autre côté, moi, je ne vois pas... J'arrive pas à m'imaginer quelqu'un qui n'aurait jamais cuisiné de sa vie ouvrir ce livre-là et ensuite aller jusqu'au bout, le refermer, être en mode « ça y est, c'est bon, je sais cuisiner, maintenant je sais où je vais ». C'est vrai que moi, j'imagine vraiment beaucoup plus les livres de cuisine comme quelque chose pour élargir mes horizons. Enfin, bien sûr que parfois, ça m'apprend des trucs, des idées, des techniques et tout, mais j'ai plutôt l'impression que ça me fait découvrir des choses plutôt que ça m'en fait apprendre, quoi. Toutes les choses que j'ai vraiment apprises, je les ai apprises par des gens, quoi, globalement.
Et est-ce que c'est parce que... Je trouve, par exemple, le tadig, ce que tu disais tout à l'heure, de comment tu fais les trous avec le manche de la cuillère, mais ça va avec plein d'autres trucs. C'est peut-être aussi, de fait, beaucoup plus facile à apprendre quand t'es devant la personne et que tu peux tester en même temps et que...
Oui, c'est ça. Puis, je sais pas, la cuisine, c'est quand même assez corporel comme...
Ouais.
Non, c'est pas comme... Je sais pas. Et de fait, ça se voit dans le livre de l'épisode précédent, décidément, on n'arrête pas d'y faire référence, faut vraiment aller écouter. Où, en fait, finalement, ce qu'elle nous apprend, c'est les éléments chimiques ou scientifiques derrière ce qu'on va cuisiner. Mmh. Et ça, effectivement, je pense que tu peux assez bien l'apprendre avec un livre, de la même manière que tu peux apprendre... à lire avec un livre ou bien enfin voilà que tu peux apprendre des choses sur des périodes historiques ou de la sociologie ou enfin voilà peu importe dans les livres autant la cuisine je trouve que enfin effectivement il y a quelque chose qui est tellement sensible que j'ai appuyé sur le micro il y a quelque chose qui est tellement sensible que c'est vraiment pas pareil de l'apprendre dans un livre, quoi. Moi, j'ai envie de voir quelqu'un bouger, que quelqu'un m'explique. Mmh. Mais tu comprends quand tu le touches et que ça fait un peu ça. Et des choses qui sont hyper... Enfin, plus compliquées à expliquer avec des mots, quoi.
Oui. Et qui dépendent aussi parfois vachement de ton environnement, de l'humidité.
Ouais, c'est ça.
Par exemple, une dame qui est très chère à mon cœur, qui s'appelle Liliane, qui m'a appris à faire de la brioche, qui est vraiment délicieuse. Et ben, j'étais obligée, je me rappelle, donc j'ai noté la recette dans mon carnet, mais j'étais obligée de la prendre en vidéo pour avoir le geste qu'elle fait en faisant sa brioche. Et elle me disait aussi, par exemple, que ce soit la brioche ou les chouquettes, dépend énormément de l'humidité ambiante. Et du coup, elle me dit, bon, bah, s'il fait
qu'est-ce qui dépend ? Enfin, ça
change, je crois, si jamais ça gonfle ou pas, ouais, okay. Combien il faut tu le mettre dedans. Ça peut rater aussi, les chouquettes, ça rate très facilement. Les tuiles aussi, ça rate. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ratent.
Ok, mais du coup, il faut qu'il y ait beaucoup d'humidité, peu d'humidité pour
bah,
que ça
du coup,
monte,
elle ajuste.
Ça. Ok, mais elle ajuste dans quel sens ?
Je ne sais pas, okay. Franchement.
Encore une info qui va vous servir directement demain quand vous ferez une brioche.
Ouais, je ne sais pas. Mais ça dépend aussi du four. Où, par exemple, sa chaleur tournante, elle était cassée. Et elle faisait des chouquettes magnifiques à la chaleur tournante cassée. Alors que normalement, t'es censé avoir chaleur tournante sur ton four. Et elle a changé son four. Et depuis, ses chouquettes ratent.
Parce que la chaleur est trop tournante. Ok.
Mais ça dépend de plein de choses que tu peux pas, en fait, marquer dans un livre. Parce qu'un livre, ça parle à tout le monde et ça parle pas à chacun.
Waouh. Là, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Non, mais ce que je trouve... Enfin, pour décaler un peu la même idée, ben, c'est comme... bon, ces quatre piliers de la cuisine, ok. Ça nous donne une grille de lecture pour cuisiner. Mais en même temps, je trouve qu'à ça se mêlent beaucoup de choses qui sont plus... bah, je sais pas, qui sont plus personnelles. Et puis, enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fonction de chacun notre manière de cuisiner, qu'est-ce qu'on aime le plus dans la cuisine, qu'est-ce qu'on aime le plus comme aliment et tout, on pourrait, en fait, décliner une grille de lecture... différentes quoi, avec bah là par exemple il y a aucun moment où on parle de la sucrosité du sucre,
à la différence de Sola dans son livre
qui met du sucre dans chaque recette.
Ouais.
Oui, mais ceci dit, est-ce qu'elle parle de la sucrosité du soja? Je ne sais pas, pas vraiment non plus. Mmh. Mais de la même manière, là, elle ne parle pas vraiment des enjeux de texture ou... Bah, elle parle de ce que la chaleur, ça fait à la cuisine. Mais par exemple, elle ne parle pas de ce que le froid, ça fait à la cuisine. Pour autant, c'est une technique qu'elle utilise, par exemple, pour les œufs au miso.
Et c'est quelque chose qui est très intéressant, par exemple... La congélation, moi je trouve toujours ça dingue à quel point ça change ce qu'on appelle en anglais le frostburn, là, je ne sais pas, frostburn,
la brûlure de glace.
Voilà, c'est
la brûlure givrée.
Ouais, le fait que quand tu mets un aliment dans un congélateur très froid, par exemple de la viande, enfin du poulet, après ça
raffermit.
Ouais, enfin, tu vois, ça devient tout blanc et ça. Vous avez déjà mis, par exemple, une pizza qui restait trop longtemps au congèle, et ben elle est toute blanche sur le côté. Enfin, il y a un truc qui se passe où tu fais congeler des fruits et tu les fais décongeler après, et ils sont tout mous, tout blop, comme ça.
Ouais.
Il y a vraiment, je trouve, un truc qui est intéressant sur comment ça change les textures et tout.
Oui, puis par exemple, là, il n'y a pas non plus de réflexion sur, je sais pas, la découpe des aliments.
Ouais. C'est vrai.
Alors que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très important. Est-ce que tu fais
dans la cuisine française?
Dans la cuisine française, la julienne, etc., etc. Je ne connais que comme nom la julienne. mais ceci dit, comme quand on parlera enfin de Français qui écrivent des livres ou qui font des séries, là, on s'attaquera sans doute à la découpe des aliments. Le mois prochain, déjà. Voilà. Puis, mais du coup, c'est vrai que. Bon, ce qui est pas mal dans le fait de regarder une série, bah, à la fois, je trouve qu'en degré de précision par rapport à un livre, on va beaucoup moins loin. En degré de précision, d'une certaine manière, parce que le dosage, le timing, les ingrédients, etc., c'est des choses qui seraient un peu chiantes à regarder. Surtout, c'est des épisodes qui font 40 minutes à la fois, elles nous montrent plein de choses différentes et tout ça. Et en même temps, je trouve que du coup, là, le fait d'adosser à la série un site avec les recettes de la série dedans et du coup de pouvoir alterner entre le dosage et la vidéo dans lequel quand même on la voit on a vraiment, enfin comme ce que tu disais sur la vidéo de la brioche quoi, on arrive à voir la gestuelle qui est en jeu dans la cuisine, c'est assez chouette.
Ouais, carrément.
Et moi je sais que souvent je regarde des vidéos YouTube de cuisine et pour voir comment faire une recette et ensuite je me dis ah bah super, j'ai envie de la reproduire et là je vais chercher la recette écrite et en général j'ai les deux onglets qui sont ouverts et je navigue entre les deux parce qu'à différents moments de la recette j'ai plutôt besoin de l'écrit et plutôt besoin de la vidéo.
Ouais, mais il y a beaucoup de, je trouve, de formats maintenant qui intègrent les deux. Je sais que sur des sites comme Marmiton ou autre, peut-être qu'il faut en citer deux. ou 350 grammes. Marmiton. Comment ça s'appelle?
750 grammes.
750 grammes. Il y a la possibilité de regarder des vidéos. Voilà,
qui expliquent... Et même sur, à l'inverse, sur TikTok, de plus en plus, il y a
La description, exactement.
L'intégralité de la recette. Avec
exactement.
Merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, on a parlé de la série Salt, Fat, Acid and Heat autour de la chef Samine Nosrat, réalisée par Caroline Sou. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi acheter son livre du même nom, édité par Faber & Faber, paru en 2017 et traduit en français. Il coûte une bonne quarantaine d'euros.
Merci à notre réalisatrice Carla Alice. Merci à Monica Giorgiou, Nicolas Ellie, Natacha, Charlotte et Margot. Dans le prochain épisode, retour à la francophonie. Après cette série de premiers épisodes sur apprendre à cuisiner, on réfléchit aussi à ce que c'est de recevoir.